Oui, alors, excusez-moi, on va laisser la parole à notre président pour la synthèse intermédiaire.
Bien. Je vais tout de suite poursuivre dans la foulée parce que nous avons une assemblée générale et des réunions statutaires dans le suivi et que les temps nous sont comptés. Oui, on va laisser ce mouvement se faire, un mouvement de reflux. Comme quoi on est heureux quand on est à l'ADES, on n'a pas envie de partir et on a envie de chanter et de se déplacer. J'en profite d'ailleurs pour remercier du coup tous les intervenants ce sera la vraie synthèse. Je pense qu'en remerciant Claude qui nous a avoué que lorsqu'elle se met du rouge à lèvres, c'est dangereux, je saurai dorénavant, je ne le savais pas. Oui, mais en tous les cas, merci à vous tous parce que je pense, enfin, avant même de commencer une synthèse, je voudrais moi donner une évaluation et j'aime bien donner des notes. Donc j'ai une journée à 15, entre 15 et 17 sur 20. Avec la qualité de tous les intervenants. D'ailleurs, merci vous qui êtes assis. Applaudissez nos intervenants qui sont là, qui représentent. Voilà. Donc ça c'est ma première synthèse. Mais normalement, une synthèse, c'est ni à Pascal de la faire, ni à moi-même, mais c'est évidemment à une salle qui est active, qui a beaucoup écouté, à qui on a refusé toutes les pauses, même la pause du matin. Donc pour un esprit de crise et d'économie, sans doute. Et nous avons donc... Je vous vois encore tous vivants et vivaces, avec des yeux actifs. Donc, j'imagine que vous avez des expressions tout de suite, et non pas toutes faites, mais tout de suite, pour construire cette synthèse. Bien évidemment, vous avez aussi un support d'évaluation. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Ce support d'évaluation est un support de travail. Je peux rappeler simplement ce qu'on veut de cette journée. Donc la synthèse est importante. Pourquoi ? Parce que, d'abord, elle n'est pas une fin. Elle est en continuité avec ce que nous avions déjà fait l'an dernier, vous le savez, sur les objectifs qu'on s'est donnés et la volonté d'accompagner, finalement, dorénavant, une loi qui va être très importante, la loi de santé. Donc nous avons cette volonté. Donc aujourd'hui, c'est un début. C'est une poursuite, mais le début d'une nouvelle activité d'accompagnement de cette loi. Rappelez-vous également, et c'est une méthodologie fort proche, mais plus complexe que Pascal nous a mis en place et plus efficiente qu'il nous a mis en place, mais rappelez-vous ce qu'on avait fait avec la loi qui allait devenir la loi du 5 juillet 2011, ce que j'évoquais ce matin, c'est effectivement, on l'a accompagné. On a été en permanence sur les groupes de travail, on a été en permanence sur les différentes réunions organisées soit par le cabinet, soit par la ministre directement, soit par l'administration centrale. Et puis, à cette occasion, nous nous étions offerts une expertise, Olivier Dupuis, 30 à 40 propositions dans lesquelles nous avons plongé pour les passer, et notamment l'une de nos propositions qui était la salle d'audience à l'intérieur des établissements hospitaliers, elle est passée parce que nous avons effectivement œuvré en ce sens. Et pour beaucoup d'établissements aujourd'hui, c'est une avancée sensible par rapport à ce qui se passait auparavant. Eh bien, c'est de cette façon que nous souhaitons aussi agir avec les éléments législatifs qui vont être présentés. Et bien sûr, dans la loi, il n'y aura pas que l'article 12 et l'article 13. Il y a aussi la médecine de liaison. Il y a des tas d'éléments qui concernent l'hospitalisation et les soins qui concernent bien évidemment notre discipline, et il ne faudra pas s'arrêter à ce point-là. Il ne faudra pas non plus s'arrêter au seul élément proposé. En effet, rappelons-nous que nous n'étions pas favorables simplement à être une petite clause, c'est-à-dire la psychiatrie et la santé mentale, une petite clause dans une loi magnifique et d'amplitude énorme. Nous avions souhaité, et nous étions parmi ceux qui souhaitaient, la loi de psychiatrie et santé mentale, donc une loi de gestion, une loi de gouvernance, mais une loi spécifique qui couvrait l'ensemble du champ. étant entendu que depuis de nombreuses années, tous les rapports, oui, ou quasiment tous, rappelaient cette nécessité d'une loi d'organisation de la psychiatrie et de la santé mentale. Et on avait évoqué avant la loi HPST les expressions du rapport Larcher, où on disait qu'effectivement, il y avait un besoin spécifique pour la santé mentale et la psychiatrie. Donc, nous étions de cela. Nous nous sommes satisfaits de ce qu'on nous proposait. Plutôt que rien, eh bien, nous prenons ce qu'il y a. Plutôt que rien, nous prenons ce qu'il y a. Mais nous espérons effectivement qu'il y aura sans doute, enfin, il faudra les espérer, des ouvertures dans le cadre d'une loi cadre, de telle sorte que cette loi cadre débouche sur des décrets d'application et d'autres documents. Bref, que le règlement succède à la loi pour pouvoir effectivement couvrir un ensemble de champs qui, finalement, n'ont pas été couverts en termes d'organisation d'une manière circulaire, réglementaire ou législative depuis la circulaire de 90. Donc il faut remonter à une circulaire de 90. Donc elle a été citée ce matin. Donc quelques 30 ans après la circulaire de mars 60 sur le secteur, nouvelle loi d'organisation de la psychiatrie, nouvelle circulaire, seule circulaire d'organisation de la psychiatrie et de la santé mentale. Et puis voilà, et nous y sommes. Nous sommes en face d'un moment très important, et c'est pour ça qu'il ne sera pas étonnant de voir des documents sortir, des tensions exister entre les différents partis. Les débats vont être certainement importants, et ils sont importants, puisqu'on n'aura pas tous les jours l'occasion de revoir des dispositifs législatifs en psychiatrie et santé mentale. Donc voilà, merci d'avoir été, actif et attentif tout ce temps. Merci maintenant d'intervenir pour nous donner quelques éléments de synthèse. Qu'est-ce qui vous a paru ce matin ou cet après-midi essentiel à retenir donc de notre journée, que l'on va d'ailleurs utiliser tout à l'heure, puisque nous esquisserons très rapidement, dans le cadre des réunions institutionnelles Assemblée Générale et BN, quelques axes prioritaires de notre action pour l'année 2014-2015. C'est toujours la première question qui est difficile, et je demande tout de suite de passer à la seconde question. Ou remarque, d'ailleurs, ce n'est pas forcément une question. Que dit Claude Finkelstein, qui n'a pas de...
Non, non mais... Mais ça, oui, c'est bienvenu. Parce que j'ai failli mettre du rouge à lèvres ce matin. C'est pour ça que c'est la dernière venue, tu vois. Bon, bref. Non, mais réfléchissez aux maisons médicales. Je sais que ce n'est pas votre précaré, mais puisque vous demandez aux généralistes de détecter éventuellement des problèmes psychiatriques, réfléchissez aux maisons médicales. On a vraiment besoin d'un suivi, et on ne l'a pas en ambulatoire non plus, d'ailleurs. Et on a besoin de votre aide et de votre soutien pour ça. Réfléchissez. Toi, tu es bon là-dessus, hein, si mes souvenirs sont exacts, non?
Merci aux maisons. Effectivement, c'est une proposition importante. D'autant que ça rejoint bien, et ça rejoignait la première proposition du rapport de Niro Billiard, la liaison avec la médecine généraliste. C'était la première, et il y a deux ou trois propositions faites sur ce thème, et je crois qu'on l'a réentendu, et ça évoque pour nous quelque chose de très important.
Sur les maisons médicales, pour le voir sur une double casquette, et parce que nous, on l'a inscrit là dans le modèle, puisque quand on parle de psychiatrie communautaire, ça peut être une forme de mobilité, y compris vers la maison médicale, mais ça peut être un autre élément du modèle qui consiste à ponctuellement se poser dans une maison médicale. Qui pour un psychiatre, qui pour un psychologue, un infirmier, que sais-je encore, ne serait-ce que quand on en parle avec des responsables de maisons médicales, j'y reviendrai, parce qu'eux-mêmes sont demandeurs d'éviter d'avoir à courir après un CMP ou d'afférenter à un CMP un patient qui ne va pas forcément en relever à tout prix, notamment quand la commune n'est pas la même. Et notamment dans les territoires non directement urbains où les maillages ne sont pas les mêmes, moi je vois que les opportunités actuelles sur des territoires comme le nôtre, mais nos territoires ne sont pas homogènes. Je pense que là aussi, quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que nos projets ils seront aussi contingents à la réalité de nos territoires. Et que ne serait-ce que la maturité des MSP, et notamment en fonction des contraintes que connaissent les territoires, la médecine générale, etc., ne donne pas les mêmes résultats. Moi, ce que je constate sur les territoires qu'on dessert, c'est qu'en fait, les communes de taille intermédiaire commencent, pour certaines d'entre elles, à réfléchir pour anticiper, parce qu'elles anticipent des problèmes de désertification médicale, etc., a raisonné pôle santé, c'est-à-dire regroupement fonctionnel et territorial d'un ensemble d'acteurs de santé pour offrir des lieux relais, quelle que soit la nature juridique du portage aux différentes professions médicales et paramédicales libérales. C'est aussi l'opportunité, puisqu'on a vu dans les années précédentes qu'on était en train de passer nous-mêmes vers des centres de santé, de sortir des pavillons, des appartements. C'est aussi pour nous l'occasion, au fur et à mesure de nos réinvestissements, d'investir dans les mêmes lieux de proximité. Donc j'ai en tête au moins deux ou trois exemples où nous savons que l'implantation de notre futur CMP, quel qu'en soit le contenu, elle se fera aussi à proximité d'autres acteurs de santé. Ça, c'est un premier point. Moi, je vois des élus qui résonnent sur une même zone, EHPAD. Parfois, il y a une école à proximité, c'est pas non plus idiot, mais il y a une maison de santé, etc., etc. Il y a des équipements publics. Donc, si on arrive, nous, à peser aussi dans la relation avec les élus sur ces questions-là et à porter notre pierre à l'édifice dans les deux sens du terme, au propre comme au figuré, je pense qu'on aura la valeur ajoutée. Et puis là où on n'est pas présent, parce qu'on n'est pas présent dans toutes les communes, imaginez effectivement qu'on puisse aller contribuer, y compris au modèle économique d'une MSP, parce qu'il faut louer des locaux, etc. On peut conforter aussi des projets dans lesquels on a sans doute notre place. Alors, le propos est un peu long sur le sujet, mais il y a 3 ans, les MSP, on nous disait qu'il va y en avoir partout. On ne les a pas forcément vus. Il y a des délais de latence, mais là, ça commence à sortir de terre.
Oui, Gaël Leloup, Valmont. Enfin, DAF au Valmont. On a parlé de pognon aujourd'hui, alors forcément...
On n'a pas parlé de pognon.
Et oui, donc c'est dur pour moi.
C'est demain matin, en
principe. Oui, bah heureusement. Mais alors, sur le sujet gouvernance et pilotage, j'ai bien entendu qu'il faudrait rénover nos secteurs. Je ne suis pas intervenu ce matin sur le sujet, mais vu qu'on a un peu le temps là, je me permets. Il ne faudra quand même pas qu'on réaccouche d'un système sectoriel où on aurait, ce qu'on peut observer sur certaines... certaines communes, à savoir le CMP sur la rive est, avoir une offre redondante à quelques mètres d'intervalle. Les découpages sectoriels qu'on a pu connaître, c'était juste le point sur lequel je tenais à insister, parce qu'on a beaucoup décrit finalement ce qu'il y aurait dans ces secteurs rénovés. L'aspect découpage, alors même si j'ai bien compris que ce serait déjà RS qui découperait ça, je ne sais pas, en termes de méthodologie, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à s'appuyer sur des logiques de découpage qui permettraient d'éviter ce type d'écueil ? Est-ce qu'on ne peut pas, notamment, essayer d'introduire la notion de bassin de vie de l'INSEE ? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a, en tout cas, au plan méthodologique, des recommandations à faire autour de ce futur découpage de nos secteurs rénovés ?
Alors, effectivement, et c'est probablement l'une... Enfin, ça fera partie, d'ailleurs, en raisonnant, en synthèse... La notion de secteur est encore en première ligne. Donc le comble, c'est qu'on arrive en fin de journée et que l'on constate au moins deux choses. Je le disais à Pascal tout à l'heure, là où c'est le plus important, on n'a pas la définition. Le parcours, oui, mais on ne sait pas ce que c'est que le parcours. Quelqu'un l'a dit et qui a toute autorité pour le faire. Et pour nous, la question du secteur, c'est... La carte n'est pas le territoire, donc c'est effectivement Houellebecq qui le dit. Enfin, la carte n'est pas le territoire, mais le secteur qui est une carte en définitive n'est pas non plus le territoire. Mais surtout, le territoire est-il vraiment un territoire lorsque nous en parlons? J'ai entendu certains intervenants laisser entendre que finalement, il y avait encore une définition spécifique pour le territoire. Donc le territoire, c'est la vie. Hein, quand on dit la carte n'est pas le territoire, la carte, c'est les découpages géographiques, et le territoire, c'est la vraie vie, les transports, la boulangerie, l'épicerie, etc. Et voilà. Et donc, quand on est en face de cette problématique et de la problématique du secteur, on a évidemment le concept de géographique qui est en face de nous, puisque non seulement on a le concept géographique, mais on a en plus le géopopulationnel, comme on le dit, c'est-à-dire qu'en fait, on pense le secteur avec un nombre d'habitants. La preuve, c'est que j'aurais retenu qu'en moyenne, en France, un secteur a 51 000 habitants. Bon, c'est une moyenne. Bon, je ne l'avais pas en tête, elle existe, elle n'est pas très utile, mais voilà, elle sera mémorisée. Eh bien, voilà, et nous en sommes là, qu'avec des concepts, nos secteurs,
injurie la logique, une tolérance pratique, et dans bien des, enfin, dans certaines circonstances, je dis bien nos, globalement, hein, je vais pas, tous nous avons certainement d'ailleurs au moins un secteur mal foutu au milieu des autres secteurs, et qui effectivement pose le problème du CMP à 100 mètres, etc. Mais ça, c'est l'organisation. Moi, je verrais plutôt ce concept-là ou cette question-là de, qui se relève d'une organisation logique, relevée également de nos établissements. Qu'il y ait effectivement des définitions, et c'est d'ailleurs un peu ce qui est entendu, qu'il y ait des définitions d'accompagnement. Je parlais tout à l'heure de l'accompagnement de la loi par des décrets d'application. Bon, qu'il y ait effectivement des définitions d'accompagnement, oui, il en faut au maximum, mais de toute façon, l'application intelligente, elle se fait, enfin, intelligente ou pas intelligente d'ailleurs, mais intelligente se fait au niveau d'un établissement. Et alors, on l'a évoqué simplement et très, d'une manière un peu, non pas rudimentaire, mais en tous les cas très simple, la grande réforme territoriale de la France. Mais à partir du moment où on aura 13, 14 ou 15, je crois qu'on en est à ce type d'interrogation, régions, on ne gérera pas la psychiatrie de la même manière, surtout si on accompagne cette réforme régionale d'une disparition ou non du département. Donc le lien que nous avons avec une collectivité territoriale qui s'appelle le département va évidemment, enfin, lien qui a été modifié, mais bon, lien quand même, va effectivement être modifié sensiblement lorsque le département lui-même disparaît, ou en tous les cas voit et du coup, je dirais que sans être, alors tu as raison, on n'a pas à se préoccuper ou vouloir ou désirer être le centre. On veut être acteur parmi les autres, mais on veut aussi être acteur très dynamique parmi les autres acteurs. Donc c'est un point important. Et je pense que une certaine forme de gouvernance liée à, d'un côté, un éloignement de l'agence régionale, et de l'autre côté, de nouvelles organisations nécessaires pour justement obtenir un secteur rénové, je constate au passage que l'expression a disparu. Hein, donc, mais j'espère qu'elle reviendra par la porte, parce que elle signifie quelque chose. Hein, donc voilà. Donc on peut penser que la réponse, c'est quand même une organisation interne qui doit répondre à ce type d'organisation spécifique liée à un découpage un peu, j'allais dire rikiki.
Alors je pense qu'il va falloir qu'on conclue.
Ah pardon. Oui, c'est bien.
Non, donc on a donc le bilan, je ne sais plus comment on l'a appelé,
d'Ascodoc.
Je vais juste faire le lien par rapport à demain. Donc, je voulais juste évoquer quelque chose avant qu'on passe en assemblée générale, donc avant que les extérieurs ne soient plus là.
Mais
ça me paraît important. Je te promets, je le fais en une minute.
Oh, c'est aujourd'hui, pas possible. Je crois pas.
Non, mais très rapidement.
Toi et Jo, vous faites le concours.
Je l'ai tenu. Surtout si on me sabote la chose.
Non.
Ouais. Moi, je suis à la fois rassuré et effrayé. Premièrement, rassuré parce que l'objectif de la journée, alors demain, on rentrera dans des choses peut-être plus immédiates et concrètes, parce qu'on verra qu'il y a du travail qui est engagé là derrière, et c'est aussi le fil conducteur qu'on s'est donné l'année dernière. Mais je suis rassuré parce qu'il y a quand même beaucoup d'idées qu'on peut brasser. Je ne suis pas inquiété pour autant, et notamment pour essayer de calmer les angoisses de Claude avant qu'elle me mange tout cru. C'est qu'en fait, évidemment qu'il va falloir atterrir, creuser certains sujets, et qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on se rapproche de la cible, elle s'éloigne de nouveau, parce que tout ceci est complexe, répond à nos sensibilités, c'est normal, à nos différences de définition, on n'est même pas homogène entre nous, au sein même de l'association, sur certains sujets. Donc ça, c'est un premier point. Où je suis un peu effrayé, c'est qu'on verse toujours dans le même truisme qui consiste à vouloir à tout prix des définitions et des catégories qui soient systématiquement homogènes, applicables partout et qui sans doute n'existent pas. Moi, je suis beaucoup plus intéressé à travers ce que je peux constater dans mon établissement et maintenant dans d'autres établissements à travers les groupes de travail, c'est pas que des chefs d'établissement, groupes de travail qui sont les nôtres pour l'instant, qui sont pas ouverts sur l'extérieur, où on voit qu'il y a des choses qui se passent, et que je dis souvent que je n'invente rien, et que j'observe, et que je vois qu'effectivement, il y a au sein de l'établissement ou dans d'autres établissements, des évolutions entre des équipes qui n'ont pas forcément à voir entre elles en termes d'activité, mais qui me semblent similaires, et qui me font dire de façon très optimiste, même si c'est angoissant parce que c'est un saut dans l'inconnu, qu'on est sans doute là, au bord de la faille, et que la question, finalement, elle est très peu réglementaire, elle est très peu législative, elle est celle des pratiques de soins, des organisations, des modes de prise en charge qu'on mettra en place, et je pense qu'on est potentiellement à la veille de changements extrêmement importants, pour peu qu'on les discerne et qu'on s'en donne la peine. Mais dans la filiation de ce qu'on a refait avant, ce n'est pas pour assurer à tout prix, mais il peut aussi ne rien se passer. Donc moi, je suis beaucoup plus intéressé, je conclurai par là, à la question effectivement de la remontée des pratiques pour modéliser ces pratiques, ce que je soulignais en fin de matinée, parce que là, je pense qu'on peut avoir une véritable valeur ajoutée, et qu'il faut évidemment ne pas le faire seul, ça veut dire le faire à plusieurs établissements, c'est le rôle aussi de notre association, le faire avec l'ensemble des professionnels de nos établissements, ça pose la question d'un travail plus en profondeur, en particulier avec les responsables médicaux, et puis le faire avec les autres réseaux, tout comme on a commencé de lancer des pistes avec l'Association française des acteurs de soins, etc. Ces groupes de travail doivent impérativement être ouverts pour qu'on évite les frustrations réciproques ou de générer des peurs ou des angoisses pour les autres à partir de ce qu'on met sur la table et qui n'a pas été pensé, je dirais, collectivement, préalablement. Je vais prendre qu'un exemple dont j'ai parlé l'autre jour avec Claude.
C'était déjà 2 minutes 30 déjà.
Donc, l'exemple prend 30 secondes.
Vous avez remarqué l'art de l'orateur, on rebondit toujours sur une...
Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, il n'y a rien à attendre des textes, de faire nos projets d'établissement et nos projets médicaux en associant l'ensemble des autres acteurs. Et c'est loin d'être généralisé dans la majorité des établissements. La plupart des établissements font encore leurs projets médicaux entre eux, sans associer aucun acteur extérieur. Et quand je parle d'association, ce n'est pas le diagnostic territorial ou interroger les autres sur ce qu'ils pensent de nous. C'est les faire travailler à la définition même de nos projets. Ça reste aujourd'hui extrêmement résiduel. Et je m'arrête là. Bravo. Bravo.